Mes bien chers amis, on entend trop souvent dire « Le capitalisme ne vaut pas mieux que le communisme et ne mérite pas plus d'égards que lui. » L'Église a condamné les deux avec la même vigueur. Ce langage est absolument faux. D'abord, à notre connaissance, l'Église officielle n'a jamais prononcé contre le capitalisme tel que nous le concevons les fortes condamnations qu'elle a portées contre le communisme. C'est du communisme et du communisme seulement que le pape Pie XI déclarait « Il est essentiellement pervers ». Essentiellement pervers, cela veut dire pervers par sa nature même, pervers tout entier, rien de bon en lui. Le communisme est pervers par son athéisme, pervers par son matérialisme, pervers par ses mensonges, par sa violation des engagements les plus sacrés, pervers par son absence de toute morale, le communisme considérant comme moral tout ce qui sert à ses fins et comme immoral ce qui en éloigne. Le communisme est essentiellement pervers, non seulement en coupant l'homme de Dieu, mais aussi sur le plan temporel, par le peu de corps qu'il fait de l'individu. Il dégrade la personne, il ne tient pas compte de la nature de l'homme telle que l'a faite le Créateur. Il foule aux pieds la liberté de choix de la personne. Pour le communisme, l'individu n'est qu'un instrument à utiliser selon les fins du parti, un instrument qui doit se plier à ses fins ou être cassé impitoyablement. Le communisme est tyrannique au suprême degré. Une fois au pouvoir, le parti communiste ne permet rien qui puisse menacer de l'en détrôner. Il exerce une souveraineté absolue sur tout et sur tous. Il ordonne quoi faire, quoi ne pas faire, accepte ce que je décide pour toi, sinon je te rends la vie impossible. À peine au pouvoir, le premier soin du parti est de monter une force policière, une visible et surtout une secrète, servie par un appareil de délation qui s'étend partout jusqu'au sein des familles. Et le moindre indice d'opposition au régime rend son auteur passible d'un traitement sans merci. On n'en est pas rendu là dans les pays à régime capitaliste. Tout n'y est pas parfait, loin de là. Mais les maux qu'on y déplore, la mauvaise distribution de la richesse, les injustices sociales, ne sont point dus à la nature même du capitalisme, mais au système financier qui s'y est implanté et qui domine au lieu de servir. C'est le système financier qui est mauvais et qui vicie le système capitaliste. En lui-même, le système capitaliste est bon. Il est, selon nous, celui qui répond le mieux aux aspirations de l'homme dans le domaine temporel. Nous pouvons en effet définir le capitalisme comme un système reconnaissant et protégeant la propriété privée, la libre entreprise, la liberté de choix de la personne, avec la responsabilité attachée à cette liberté. Par son marché libre, le capitalisme permet la souveraineté du consommateur sur les objectifs de production. Sur un marché libre, en effet, le consommateur choisit lui-même, par ses achats ou ses commandes, ce qui convient à son goût et à ses besoins. Il dicte ainsi ses préférences aux mécanismes de production. La capacité productive du pays sait quoi faire pour répondre aux besoins librement exposés par les consommateurs, ce qui veut dire par toutes les personnes et toutes les familles du pays. Mais, objectera-t-on, ce n'est pas ainsi que les choses se passent dans notre pays à système capitaliste. La propriété privée est fort malmenée, surtout celle des moyens de production. Les moyens de production sont passés entre les mains d'une minorité de plus en plus restreinte. La majorité n'a que ses bras et doit se mettre forcément au service de la minorité privilégiée. La majorité doit s'embaucher et exécuter les ordres de la minorité, sinon crever de faim faute de pouvoir d'achat. Le marché a beau être libre, la privation ou l'insuffisance de pouvoir d'achat ne permet nullement à bien des consommateurs de faire un choix libre sur ce marché. On ne peut donc pas dire que les consommateurs dictent à la production ce qu'il faut faire pour répondre à leurs besoins. Ces remarques sont vraies, mais il ne faut pas attribuer cet état de choses à l'application du système capitaliste. Il faut, au contraire, l'attribuer à la réduction du capitalisme, au point où une partie de plus en plus petite de la population vit vraiment sous un système capitaliste. Vous parlez d'une minorité de possesseurs de moyens de production et d'une majorité croissante de gens qui doivent s'embaucher au service de cette minorité. Ce n'est certainement plus là un pays capitaliste, mais un pays approchant, par la voie économique et sociale, approchant de la tyrannie exercée politiquement en pays communiste. On ne peut pas dire qu'un pays vit vraiment sous un système capitaliste quand le capitalisme est le fait de seulement 5% de la population et que 95% ne vivent qu'avec la permission ou la grâce de ces 5%. Le système, alors, n'est que 5% du capitalisme et 95% de la servitude. Système qui s'approche de plus en plus du communisme à mesure que la concentration de la richesse entre quelques mains donne à ceux-là le pouvoir de dominer la vie des autres. Ce n'est donc pas l'économie capitaliste comme telle qu'il faut blâmer. Et ce n'est pas sa disparition qu'il faut souhaiter. Il faut au contraire souhaiter son extension. Si dans un pays il n'y a plus que 5% des citoyens à jouir d'un statut de capitaliste, au lieu de désirer voir cette petite proportion fondre à 0%, il faut plutôt tendre à la monter à 100%. C'est ce que ferait l'établissement d'une finance de crédit social à la place du système financier actuel de crédit bancaire qui parasite, puis domine, intoxique et tue graduellement le véritable capitalisme. Le crédit social ferait de chaque citoyen un capitaliste de fait comme il l'est déjà de droit. Le crédit social ferait des 20 millions de citoyens canadiens 20 millions de capitalistes, chacun touchant, comme le capitaliste à placement, un certain dividende annuel ou trimestriel ou mensuel, indépendant de son emploi ou de son non-emploi dans la production, sans pour cela supprimer une rémunération appropriée, en salaire ou autrement, à ceux qui contribuent personnellement, de quelque manière, au fonctionnement des mécanismes de production. Le revenu d'un capital s'appelle dividende. Le dividende est un facteur de sécurité économique inconditionné. Plus le capital investi est gros, plus le dividende peut être important. Mais petit ou gros, c'est de l'argent de la liberté, le capitaliste étant libre d'accepter ou de refuser un emploi personnel dans la production. Si le dividende lui suffit pour un niveau de vie convenable, il est absolument libre de l'emploi de son temps. Le revenu de l'employé, lui, s'appelle salaire. Petit ou gros, suffisant ou non, le salaire ne peut constituer qu'une sécurité économique conditionnée. Il est conditionné à sa source par l'emploi, par l'embauchage au service d'un autre, donc par une servitude. Ceux qui exaltent le salaire et discréditent le dividende exaltent la servitude et discréditent la liberté. Les syndicats et d'autres qui préconisent une politique de plein emploi associent le droit de vivre à la servitude. Les créditistes qui préconise un dividende social à tous et à chacun, cherche pour tous une économie de liberté, un droit de vivre lié à la personne elle-même et non pas uniquement à sa participation personnelle à la production. Ce dividende social, qui irait à tous, employés ou non, n'empêcherait nullement, répétons-le, une rémunération supplémentaire appropriée à ceux qui contribuent à la production. Mais sur quoi se base l'affirmation créditiste que tout citoyen est capitaliste de fait et devrait l'être de droit? Le journal Vert Demain l'a maintes fois expliqué et il le fera encore. Disons seulement ici que l'abondante production moderne est due à bien autre chose que le travail des employés et les piastres des actionnaires. Elle l'est d'abord à l'existence de matières premières, de ressources naturelles créées par Dieu pour toute l'humanité de toutes les générations. Cette gratuité du Créateur confère déjà à chaque être humain un titre à une part des richesses qui en découlent. Le reconnaître par un dividende social à tous et à chacun serait rendre hommage au Créateur et à son œuvre. C'est en même temps le moyen le plus efficace jamais proposé pour la réalisation pratique du droit fondamental de tout homme à une part des biens temporels, droit si fortement rappelé par le pape Pie XII dans son radiomessage de septembre de juin 1941. Puis, il y a l'immense progrès réalisé dans les procédés de production, transmis avec accroissement d'une génération à l'autre, inventions, sciences appliquées, découvertes de sources d'énergie, etc. Tout cela n'est l'acquisition d'aucun vivant en particulier. C'est un héritage des générations dont nous sommes tous co-héritiers. Héritage sans lequel la production serait 100 fois moindre qu'elle est, avec 100 fois plus de producteurs. Donc, tous héritiers, tous capitalistes. Une prochaine causerie reviendra sur ce thème lumineux.
Nous venons d'entendre le programme du journal Vert Demain qui revient chaque semaine à ce poste, à la même heure, le même jour. Mes amis, recevez donc le journal Vert Demain. L'abonnement ne coûte que 2 $ pour un an. Vous le recevez tous les mois et il est lumineux sur tous ces problèmes économiques. Il va falloir faire quelque chose si on ne veut pas tomber dans le communisme parce que les révolutionnaires profitent de la situation actuelle et les grévistes et les syndicats qui poussent à la révolution. Il n'y a qu'une solution, c'est celle du crédit social, comme vient de le présenter avec tant de clarté M. Louis Évin dans sa conférence. Si vous lisez le journal Vert Demain, vous serez renseigné là-dessus et il faudrait que toute la population le soit renseignée. Au revoir, à la semaine prochaine, mes amis, pour une autre causerie.